que la possibilité, en fait, que les interactions entre dispositifs numériques et société participent à l'accélération de l'effondrement bioclimatique, que cette affirmation-là, la possibilité de ça est vraiment aujourd'hui réelle.
Assurer cette conviction qu'il faut continuer de produire du numérique, qui est en fait, ce qui se cache derrière, c'est en réalité une guerre économique au niveau mondial. On est en fait dans une forme de ce que Arthur Keller appelle le syndrome de la reine rouge. Hein. On doit toujours se développer plus et encore. C'est ce que, pour que les grandes nations internationales, ou du moins les corporatismes internationaux, hein, c'est plus tant les États que les États et industries, assurent leur propre supposée survie dans le combat des uns contre les autres.
Lorsqu'on regarde l'éco-conception en tant qu'une pratique ancrée dans des institutions, dans ce cadre-là, elle a une fonction d'invisibiliser en fait toutes les questions politiques autour du caractère éminemment écocide du dispositif numérique.
Vous écoutez Técologie, le podcast qui questionne le rôle des technologies face aux enjeux écologiques.
Bonjour à toutes et tous, Richard Anna, toujours pour le podcast Écologie. On enchaîne une sixième saison du podcast et toujours sur des sujets de transition écologique, de transition numérique et bien sûr de technocritique. Alors le numérique permet d'éviter plus d'émissions de gaz à effet de serre d'autres secteurs que le secteur du numérique produit lui-même. En tout cas, c'est ce que les industriels du numérique affirment, ce qui ferait du numérique le champion de la décarbonation. Vérité ou idéologie, il faut croire que le message est bien passé car les décideurs politiques du monde entier, en France, en Europe, affirment haut et fort que la transition écologique ne peut se faire qu'avec une transition numérique. Pour parler de ça, on a avec nous Marie Garin. Tu es doctorante à l'ENS Paris-Saclay. Un chapitre de ta thèse est dédié aux enjeux écologie et numérique et tu es auteur avec Achille Baucher d'une publication préliminaire Que la transition écologique soit et la transition numérique fut. Bonjour Marie.
Bonjour Richard.
Et également avec nous, on a Romain Couillet. Tu es enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes, INRIA et CNRS, et auteur avec Grégoire Poissonnier de « Pourquoi et comment démanteler le numérique ?» Bonjour Romain.
Bonjour Richard.
Avant d'enchaîner sur ces différents sujets, je vous demande à tous les deux, quels sont vos principaux travaux passés et actuels, juste pour que nos auditeurs, nos auditrices voient un peu d'où vous partez.
Alors, me concernant, j'ai démarré une thèse à la base en mathématiques sur la protection de la vie privée dans les algorithmes. Et cette thèse, après, a évolué vers la prise en compte d'autres prismes épistémologiques pour aller en fait vers une critique de l'intelligence artificielle, ou plutôt critique de l'apprentissage machine, et en mobilisant en fait de la théorie critique, de l'épistémologie française, ainsi que ce qu'on appelle les STS, les Science and Technology Studies. Et dans ce cadre-là, j'ai rédigé donc plusieurs chapitres de thèse, et j'ai également publié un article en neurosciences évolutives.
Et toi, Romain ?
Oui, donc moi, je viens du domaine des mathématiques appliquées, donc appliquées au domaine de l'ingénierie. J'ai commencé dans les télécommunications et migré au fur et à mesure là où, on va dire, l'argent et le travail se trouvaient, donc de plus en plus vers les grandes données et l'intelligence artificielle in fine. Avec toujours un spectre, un prisme d'amélioration des performances d'un point de vue réduction des coûts de calcul, réduction des impacts environnementaux, avant de me rendre compte, et en fait ça date finalement de 2 ans et demi ou un peu plus, qu'en fait ça ne marche pas, et pour des raisons d'effet rebond en fait tout simplement, et c'est ce qui m'a fait changer effectivement d'optique, et repasser également, comme Marie, en fait, sur un aspect technocritique beaucoup plus large, une vision plus systémique du numérique et pas seulement mathématique, technicienne.
Marie, tu as la gentillesse de me partager ton document préliminaire de thèse et dedans tu cites les exemples suivants sur le site du plan de relance dans le volet « Rendre l'Europe plus numérique ». On peut lire que l'intelligence artificielle nous aidera à lutter contre le changement climatique. Pourquoi le numérique est associé à la transition écologique, notamment par des décideurs politiques en France et même à l'échelle européenne?
Alors pour comprendre cette intrication indéfectible, je pense qu'il faut faire il faut en faire l'histoire. Et donc ça veut dire resituer les imaginaires sociotechniques et les idéologies, les récits aussi qui ont accompagné le développement du numérique ou de ce qu'on appelait à l'époque les TIC pour TIC pour les technologies de l'information et de la communication. Ça nous fait remonter dans les années 70 qui ont été marquées par une montée en puissance des critiques qui étaient adressées à la croissance économique et aux technologies. Et en réponse à ces critiques, une nouvelle idéologie a commencé à s'élaborer pendant les années 70 à 90, qui repose principalement sur l'idée d'un découplage entre croissance économique et dégradation environnementale. C'est ce qui est appelé communément développement durable ou croissance verte. L'idée principale, et c'est là justement qu'interviennent les TIC, c'est celle d'une croissance immatérielle, donc d'une croissance basée sur des ressources immatérielles comme l'information ou la connaissance. Et c'est de cette manière-là que pendant les années 70 à 90, des récits qui sont assez analogues émergent dans la littérature, tant académique que grand public. Dans ces récits, on prédit une société de l'information, une société de la connaissance ou une société post-industrielle. Et on se figure l'éthique comme étant propre, légère, immatérielle, et donc avec une capacité de croissance illimitée, permettant donc de répondre aux critiques adressées à la croissance. Et en fait, c'est ce qui explique en partie pourquoi d'ambitieuses politiques publiques ont commencé à être initiées, tant à l'échelle nationale qu'européenne, en faveur de la numérisation. Pour ne prendre que l'exemple des PCRDT, donc qui sont les programmes cadres de recherche et de développement technologique, qui sont donc des instruments financiers de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. Si on regarde depuis 1984, donc qui est la date du premier PCRDT, on a entre environ 20 à 25% en moyenne du budget de ces programmes cadres qui ont été alloués à chaque fois au numérique. Et pour prendre un exemple aussi peut-être plus récent, si on regarde le programme de relance post-pandémie, on voit que il y a 145 milliards qui ont été consacrés à la numérisation, ce qui correspond à peu près à 18% du budget total de ce programme de relance. Et effectivement, quand on regarde tant les textes gouvernementaux que les textes de l'Union européenne, on retrouve en fait cette idée d'une transition numérique indispensable à la transition écologique. Et dans les documents européens, il est notamment de plus en plus question des transitions jumelles.
Donc je parlais en introduction du numérique qui permet d'éviter les émissions d'autres secteurs. Donc le numérique permet-il d'éviter effectivement plus d'émissions de gaz à effet de serre d'autres secteurs que ce que le secteur du numérique produit, comme l'affirme la GSI, la Global Enabling Sustainability Initiative? Donc c'est une coalition d'entreprises du secteur du numérique. Dans leur rapport devenu célèbre, en tout cas dans notre milieu technocritique, on va dire, ou technophile d'ailleurs, les technophiles s'en servent beaucoup. Donc les rapports Smarter 2020 et Smarter 2030. Qu'est-ce qu'on peut analyser dans ces documents, Marie?
Il y a aussi... c'est juste en commentaire. Il y a aussi le rapport avant Smart 2020. Eh bien oui, en effet, en 2008, la GSI publie un rapport technique dans lequel ils estiment que le numérique va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs de 15% à horizon 2020. Et en fait, cette compensation, pour eux, ça permet de leur dire que le numérique va compenser en fait ces effets de premier ordre, donc les effets directement liés au numérique, au secteur du numérique, par un facteur de 5,5. Et cette affirmation, ils vont la reconduire dans les autres rapports qui sont sortis, donc avec à chaque fois un facteur toujours plus grand d'évitement. On a donc pour le rapport Smarter 2020 un facteur de 7,2 et pour le rapport Smarter 2030, un facteur de 9,7 qui est annoncé. Et je pense que pour bien comprendre ce qui est éminemment problématique dans ces rapports, je vais avoir besoin d'introduire la taxonomie qui est en fait habituellement utilisée pour les impacts environnementaux du numérique. J'ai déjà commencé à l'utiliser. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle les effets de premier ordre, qui sont ceux qui sont engendrés par ce qui constitue le numérique, c'est-à-dire la fabrication, l'utilisation et la fin de vie des infrastructures, des réseaux et des équipements. On appelle aussi les effets de second ordre ceux qui sont relatifs aux applications du numérique. Donc il peut y avoir des effets de second ordre positifs, comme ceux liés à l'optimisation ou à la substitution, et des effets de second ordre négatifs, comme par exemple les effets rebonds directs. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les effets de troisième ordre, qui sont les effets rebonds indirects, et tout ce qui est induit par les transformations systémiques et les changements structurels de la société qui sont induits par le numérique. Alors, maintenant que j'ai introduit cette taxonomie, revenons au rapport de la GESI. En plus, en fait, d'être basé sur des hypothèses qui sont aujourd'hui largement mises en défaut par la littérature scientifique, et pour ça, je réfère aux travaux de Gauthier Roussil, le cadrage de ces rapports, en fait, est opportunément restreint, c'est-à-dire qu'ils se sont uniquement concentrés sur les effets de premier ordre et les effets de second ordre positifs. Ça veut dire qu'en fait, ils ont ignoré les effets indirects négatifs, c'est-à-dire les effets de second ordre et de troisième ordre négatifs. Et c'est précisément ces effets-là, c'est-à-dire les effets indirects négatifs, qui ont été en fait rapidement identifiés comme les effets négatifs les plus importants par la sphère scientifique. Et voilà, donc en plus de ces considérations sur le manque de scientificité de ces rapports, je pense maintenant qu'on peut dresser un bilan. C'est-à-dire que bah, malgré la forte croissance du dispositif socio-technique numérique, force est de constater que les émissions ont explosé. Là, si on regarde les chiffres de l'ONU, par exemple, on peut voir que les émissions mondiales annuelles par habitant ont augmenté de 15% entre 1990 et 2019. 1990, ça correspond en fait à l'année à partir de laquelle la numérisation s'est vraiment réalisée. Et si on regarde l'extraction de matières premières, parce que justement la promesse était celle d'une croissance immatérielle, eh ben on voit que l'extraction de matières premières a augmenté de 113% entre 1990 et 2017, alors que la population n'a augmenté que de 40%.
C'est l'extraction de matières tout secteur confondu, pas que secteur du numérique ou des technologies.
Oui, tout à fait, tout secteur confondu. Ouais. Et donc en fait, ça veut dire que à l'inverse de ce qui était attendu, le découplage relatif qui a pu être observé, donc un découplage entre production économique et consommation de matières premières qui avait pu être observé au XXe siècle, s'est inversé. Donc pour reprendre les mots d'Éloi Laurent, la transition numérique correspond à un recouplage absolu, à une rematérialisation massive des systèmes économiques. Et il analyse en fait que la dématérialisation espérée s'est muée en recouplage. Et juste pour conclure, en fait, bien sûr qu'on peut imaginer des explications causales alternatives à cette situation qui excluraient totalement le rôle du dispositif numérique, mais je pense néanmoins que l'énoncé qui consiste à considérer que le dispositif socio-technique numérique est un formidable levier pour la transition écologique perd en fait de sa force épistémologique, c'est-à-dire si on prend sa force épistémologique comprise dans sa tradition pragmatique, ça veut dire une capacité à offrir des prédictions valides. Et je pense qu'on peut en conclure que la possibilité, en fait, que les interactions entre dispositifs numériques et sociétés participent à l'accélération de l'effondrement bioclimatique, et ben que cette affirmation-là, la possibilité de ça est vraiment aujourd'hui réelle. Et voilà, envisager en fait sérieusement le postulat d'une incompatibilité entre le dispositif numérique et une trajectoire écologique viable ou désirable. En fait, ça c'est pas du tout à balayer d'un revers de la main. Et cette hypothèse, effectivement, elle est parfois qualifiée de technophobe, malheureusement. Pour le dire peut-être avec les mots de Hans Jonas, en fait, ça considérer cette hypothèse, ça signifie en fait de conceptuellement accorder la priorité aux possibilités de malheur fondées de manière suffisamment sérieuse par rapport aux espérances.
Très bien.
C'est intéressant. Tout ce que Marie évoque est intéressant en ce sens que c'est un rapport de faits scientifiques élaborés. On, on comprend bien ce qui se cache derrière, en fait, qui a une vision beaucoup plus politique, géopolitique, internationale, et surtout capitaliste en réalité. On est dans une forme de dissimulation, de stratégie, de fabrique de l'ignorance, du mensonge, où on voit que des rapports pseudo-scientifiques produits par des industriels, hein, la GESI, tentent de faire passer une pilule qui, dans les faits, ne fonctionne pas, et c'est même complètement à contre-courant. Hein. La GESI, je crois, anticipait une diminution du fait de l'impact du numérique de 15% des émissions, enfin, pardon, de l'impact positif du numérique de 15% des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de 10-15 ans. Bon, le fait est qu'effectivement, on n'a pas fait moins 15, mais plus 15. Et il persiste et signe parce que évidemment ce mensonge-là, il doit être maintenu pour assurer cette conviction qu'il faut continuer de produire du numérique, qui est en fait ce qui se cache derrière, c'est en réalité une guerre économique au niveau mondial. On est en fait dans une forme de ce que Arthur Keller appelle le syndrome de la reine rouge. Hein, on doit toujours se développer plus et encore, pour que les grandes nations internationales, ou du moins les corporatismes internationaux, hein, c'est plus tant les États que les États et industries, assurent leur propre supposée survie dans le combat des uns contre les autres. Il y a un bouquin de Chris Miller qui s'appelle « Cheap War », qui est paru récemment, qui est extrêmement intéressant de ce point de vue-là, hein, qui montre que tout le numérique depuis sa naissance, depuis les années 60-70, est vraiment inscrit dans cette guerre économique ou militaire, hein, par ailleurs, puisque les armes aujourd'hui sont fortement, les armes de combat effectif militaire sont fortement imprégnées de numérique. Et donc en fait, il y a cette fuite en avant qui est obligatoire et il faut la justifier. Et malheureusement, comme on doit justifier l'injustifiable face à l'anéantissement global et à la dérive climatique, eh ben, on est obligé de rentrer dans des stratégies de fabrique de l'ignorance, et c'est ce qui se passe. Et ce que Marie évoque, effectivement, c'est l'aspect très concret, très pragmatiste et très scientifique dans les chiffres du fait que, effectivement, c'est les entreprises qui sont au soutien du numérique doivent, d'une manière ou d'une autre, mentir en affirmant l'indéfendable, quoi. D'ailleurs, à ce titre, je peux peut-être aussi, comme Marie, évoquer Éloi Laurent. Éloi Laurent disait un moment également qu'on s'est trompé de transition. On aimerait faire la transition écologique, mais à défaut de savoir la faire, on fait la transition numérique. Et moi, je crois pas trop, en fait, en cette affirmation, je la trouve assez naïve. Hein. Je pense que les décisions au niveau international sont très conscientes. Hein. Je pense que les décideurs qui ont des intérêts propres, personnels et capitalistes savent bien que ça ne fonctionne pas et que le développement économiciste du numérique prime devant une supposée transition énergétique et écologique. Donc on s'est pas trompé. Je pense que les décideurs mondiaux savent ce qu'ils font, en fait.
Tu disais, Romain, qu'il y a une espèce de fabrique du mensonge, voire fabrique de l'ignorance de la part des lobbyistes et acteurs de la tech. Alors que ces acteurs mettent paradoxalement beaucoup en avant la science, la recherche scientifique, etc. Quelle autre différente forme prend cette fabrique du mensonge? Donc, on a vu les rapports du GESI. Est-ce qu'on a d'autres formes de mensonges sous couvert de recherches scientifiques?
Peut-être le grand mensonge qui rend difficile la communication à l'intérieur de nos propres institutions, c'est une mécompréhension du terme même la science, qui est vue sous sa fameuse neutralité sacrée et intouchable. Et c'est ça qui fait que mes collègues ont du mal à considérer que ce qu'ils font n'est pas impactant, puisque la science est neutre et ça dépend ce qu'on en fait. Et là, en fait, c'est pas forcément une fabrique du mensonge plus qu'une institutionnalisation d'un outil, la science, à des fins effectives, capitalistes, productivistes. Et le fait est que concrètement, mes collègues, comme moi-même il y a encore quelques années, je contribuais et on contribue au développement de ce système numérique, d'accélération des processus de tous les champs d'application sociétale dans lequel on est inscrit aujourd'hui et qui crée notre verrou d'ailleurs. Et ça en soi, c'est un mensonge très insidieux, c'est-à-dire la croyance que le scientifique lambda pourra avoir un impact positif dans son implication vers du verdissement numérique, par exemple. Beaucoup y croient. Alors que les faits sont tels que la raison fondamentale pour laquelle une université tient est financée, c'est parce qu'il y a des intérêts capitalistes derrière, il y a des financements, et ces financements ils sont à but industriel. Donc du coup, ça aussi, je pense que c'est peut-être le gros éléphant dans le couloir.
On y reviendra. Pour enchaîner, merci Romain. Pour enchaîner aussi, donc on a un peu parlé aussi, mais voilà, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'une transition numérique est-elle vraiment indispensable à une transition écologique ? Comment développement du numérique et développement durable ne font finalement pas bon ménage ?
Je pense. Enfin, moi, j'aimerais tout d'abord revenir sur le terme de développement durable. Parce qu'en fait, ce terme, ce qu'il sous-tend, c'est ce que j'expliquais un petit peu au début. C'est, il sous-tend en fait l'hypothèse d'un découplage absolu entre croissance économique et dégradation environnementale. Donc, c'est-à-dire en fait l'idée que la croissance économique augmente pendant que les dégradations environnementales se stabilisent ou diminuent. Et je pense que c'est important vraiment de revenir sur ce concept-là parce que il est vraiment au cœur de des notions de alors au début on appelait ça éco-développement, développement durable, maintenant développement soutenable, croissance verte aussi. Je pense également que le terme de transition écologique sous-tend un petit peu ça également. Et donc en fait ce qu'il faut bien voir c'est que je me base sur les travaux de notamment de Timothée Parikh, c'est que si on regarde par exemple une étape un petit peu minimale de avoir une trajectoire écologique souhaitable, ça pourrait se résumer à minimalement respecter l'accord de Paris. Et donc essayer de limiter le risque d'emballement bioclimatique. En fait, il suffit pas de réaliser un découplage absolu, mais il faut que ce découplage il soit rapide, conséquent, mondial et permanent. Et en fait, il y a vraiment de plus en plus de travaux qui contestent l'éventualité d'un tel découplage, en disant que ça a jamais été observé, qu'aucune preuve empirique ne permet de motiver cette hypothèse, et qu'il est très probable que ça se produise tant pour les matériaux, l'énergie, que les gaz à effet de serre. Et donc en fait, la stratégie écologique du développement durable, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle repose en grande partie non pas sur une remise en cause de la consommation et de nos modes de vie, mais sur l'amélioration de l'efficacité énergétique grâce à des innovations technologiques. D'où, en fait, la si grande importance de la numérisation. Mais sauf qu'en fait, comme l'évoquait Romain tout au début, en fait, il semble que les gains d'efficacité et d'optimisation, ils permettent bien souvent plus d'augmenter la productivité et le flux de matière et d'énergie, et non pas de le stabiliser ou de le réduire. C'est justement souvent ce qu'on évoque avec le terme d'effet rebond. Et bien que cet effet rebond ne soit pas systématique, la rapidité, la facilité avec laquelle le numérique il peut se déployer, en fait, ça laisse à penser qu'il y serait particulièrement enclin. Et c'est ce que certains chercheurs appellent le rebond digital. Et si je peux me permettre aussi une petite remarque sur l'effet rebond, le concept implique quand même néanmoins un certain imaginaire politique que je pense qu'il est important de rappeler. C'est qu'en fait, il sous-tend bien souvent une logique d'imputation du rebond de consommation aux utilisateurs. Et donc, en fait, il est souvent interprété à partir des hypothèses de la théorie économique néoclassique, des choix rationnels sous la forme d'une analyse individualisée de coûts-avantages. Et en fait, moi, il me semble que c'est peut-être plus pertinent d'analyser ce qu'on veut entendre par l'effet rebond, plutôt en termes de réorganisation des institutions dans lesquelles les pratiques sociales sont ancrées, plutôt qu'avec une interprétation comportementale de l'homo economicus, c'est-à-dire de l'individu qui maximise ses gains. Et pour peut-être illustrer, parce que ça peut paraître un petit peu peut-être théorique tout ça.
Oui.
Oui, des exemples. L'exemple qui est justement un petit peu l'exemple classique de l'effet rebond, qui est on améliore l'efficacité des moteurs et les gens se mettent à parcourir plus de distance parce que c'est moins cher. Où là, du coup, on a une analyse justement qui est comportementale de l'individu qui maximise ses gains. Et ben en fait, ça peut être peut-être plus intéressant de saisir cette augmentation de la consommation d'essence, non pas donc avec une interprétation comportementale, mais avec une approche qualitative qui du coup implique de prendre en compte les politiques d'aménagement du territoire, qui du coup ont institué une séparation géographique des lieux d'habitat, de travail et de commerce, la normalisation de l'habitat unifamilial isolé, et aussi peut-être la représentation idéale de la voiture qui est associée à la liberté, et toutes ces choses-là.
Ouais, la publicité.
Faut pas oublier aussi que l'outil numérique, c'est un outil de d'accélération de tous les processus, c'est un outil qui a permis de développement de beaucoup d'autres champs et disciplines de recherche qui se trouvent plus efficaces et plus efficientes, et qui permettent aussi d'utiliser l'outil numérique comme un outil de d'imprégnation sociale, effectivement, de développement publicitaire, de servitude volontaire. Alors ça, on utilise du coup les travaux de psychologie cognitive et sociale pour inciter la population à rentrer dans ce prisme de la consommation. Et donc au final, les supposés gains énergétiques promis par le numérique, ils ont aussi comme effet rebond massif une transformation ontologique de la société. Et peut-être que c'est ça le point central, et qu'on ne questionne jamais suffisamment. Et là, je reprends un petit peu la voix d'Aurélien Barreau, en fait, le fait qu'on doive migrer vraiment se poser la question ontologique de qui on est, qu'est-ce qu'on souhaite. On est dans un anéantissement biologique global aujourd'hui, c'est ça la question en réalité. On ne devrait plus se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de l'outil numérique. On a compris que cet outil a des impacts colossaux négatifs, qu'il détruit la planète. La question se pose en réalité plus vraiment de comment on réduit la voilure, en tout cas à l'intérieur de ce système-là, ça ne fonctionne pas.
Comment débunker les idées d'un numérique plus vert? Moi-même, j'ai beaucoup baigné dans le domaine de l'éco-conception, notamment des services numériques. Est-ce qu'on doit complètement abandonner, selon vous, l'idée d'éco-concevoir nos services numériques? Bien sûr, c'est un premier pas pour éviter l'obsolescence des matériels, c'est surtout ça l'enjeu. Est-ce que c'est finalement mettre du sparadrap sur du capitalisme vert?
Moi, je peux répondre en tant qu'universitaire, en tant qu'enseignant-chercheur. Je vois ce qui se passe à l'université, et malheureusement, on met beaucoup de peinture verte sur la plupart des programmes d'enseignement. Il s'agit en réalité pas de changer le contenu des cours pour l'instant, plutôt que d'ajouter des contenus type fresque du climat, fresque du numérique, un peu effectivement de cours d'éco-conception, mais dont la finalité reste de produire des ingénieurs et des travailleurs pour l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui. Les industriels eux-mêmes ont pour objectif de produire et vendre, ce qui veut dire avoir plus d'extraction matérielle et continuer de piller la planète. Donc en réalité, on a du mal à imaginer que cet oxymore du développement durable, même dans les faits pratiques au niveau universitaire et scolaire, fonctionne du tout, et encore à plus forte raison au niveau industriel. On va dire, d'un point de vue pragmatique, de ce que moi j'observe en tant qu'enseignant-chercheur au sein des institutions d'enseignement et de recherche, l'éco-conception, c'est un mouvement qui est embrassé de manière majoritaire, mais qui a des effets complètement minoritaires, et qui de fait est incapable de lutter contre l'accroissement par ailleurs de toutes les entreprises aujourd'hui, la fuite en avant, la fameuse course, le syndrome de la reine rouge que j'évoquais tout à l'heure. Donc finalement, c'est un écran de fumée pour moi. dans les faits, en tout cas pour l'instant, qui permet de calmer les dissonances de mes collègues, des étudiants parfois, et ça, de fait, ça fonctionne pas. Et face à l'urgence, je pense que c'est des notions qu'on devrait mettre de côté et se poser les vraies questions.
Pour réagir assez brièvement, je pense que je partage le point de vue de Romain. Enfin, en fait, j'ai l'impression que le problème, c'est pas l'éco-conception en soi, c'est-à-dire considérée comme une de manière technique, mais plutôt lorsque on considère l'éco-conception de manière socio-technique. C'est-à-dire, c'est pas l'éco-conception en soi qui est le problème, mais c'est plutôt sa fonction, je pense. Et effectivement, ça, c'est-à-dire que je pense que voilà, une personne qui dans sa pratique individuelle ou collective, mais qui n'est pas réellement politique, fait de l'éco-conception, je pense qu'il y a absolument aucun problème à ça. Lorsqu'on regarde l'éco-conception en tant qu'une pratique ancrée dans des institutions, et ben là, effectivement, dans ce cadre-là, elle a une fonction d'invisibiliser en fait toutes les questions politiques autour du caractère éminemment écocide du dispositif numérique.
Ça ne veut pas être à l'inverse, que l'éco-conception justement amène des sujets plus politiques, mais dès lors que c'est pris, c'est approprié par une organisation capitaliste, c'est mort. Parce qu'on a aussi des associations, des coopératives d'acteurs du numérique, de développeurs. Moi-même, je suis issu d'une coopérative et je suis actuellement dans une coopérative. Si on parle d'éco-conception, ça, enfin pour moi, c'est politique dans ce cas-là. Pour vous, c'est encore de l'enfumage.
Pas forcément. Je pense que, comment dire, ça peut être aussi une porte d'entrée pour pas mal de personnes de d'abord s'intéresser aux questions qui lient l'écologie et le numérique à travers ce prisme-là. Mais effectivement, moi, le problème que j'y vois, c'est que comme je l'évoquais précédemment, les effets qui sont les plus délétères liés au numérique, ce sont les effets qui sont plus d'ordre structurel, les effets indirects. Or, l'éco-conception, quand justement c'est considéré dans en tant que pratique socio-technique, généralement, en fait, ça sous-tend que le problème principal du numérique, ce sont ses effets de premier ordre, c'est-à-dire ses effets directs. Si on regarde, par exemple, toute la littérature qui est associée aux impacts environnementaux de l'intelligence artificielle, en fait, on ne considère, enfin, vraiment, moi, tout ce que j'ai pu lire ne considère absolument que les effets directs de l'intelligence artificielle. Et du coup, toute la littérature va être autour de, par exemple, l'IA frugale, comment est-ce qu'on fait des arbres, des réseaux de neurones qui sont plus petits, comment est-ce qu'on utilise moins d'électricité. Et vraiment, hein, je n'ai pas trouvé un seul article qui évoquait de manière plus structurelle quels seraient les impacts négatifs de l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Peut-être pour compléter ce qu'évoque Marie, je pense qu'on est vraiment toujours dans ce paradigme, ce que mon collègue Grégoire Poissonnier appelle la différence entre le symptomatique et l'étiologique. L'éco-conception, c'est absolument nécessaire pour s'adapter de manière symptomatique à la société dans laquelle on vit. On n'éteint pas le numérique demain, on meurt tous. C'est clair, on est dans ce verrou numérique, on s'est enfermé dedans, on ne s'en sortira pas comme ça du jour au lendemain. Et donc, de fait, il y a une réponse symptomatique à apporter. Donc, le symptôme de notre société, c'est son enfermement à l'intérieur de ce système. Il va falloir le gérer. C'est ce que Alexandre Monin a appelé héritage et fermeture. On gère ça. Et donc là, l'éco-conception a tout son intérêt. Par contre, ce qui est dangereux, c'est d'imaginer l'éco-conception comme l'alpha et l'oméga et de le voir d'un point de vue étiologique. C'est-à-dire que une fois qu'on aurait décrété que l'éco-conception a des intérêts particuliers bénéfiques, d'imaginer que ce serait ce que tout le monde doit faire. Alors qu'en réalité, l'enjeu, il est étiologique, c'est-à-dire on reprend les problèmes à la source et reconsidérer comment on transforme le monde dans lequel on est. Et c'est ça le grand enjeu. Donc, c'est-à-dire imaginer comment vivre dans un monde qui va se dénumériser, dans une désescalade numérique, et pas réparer à coup de sparadrap, effectivement. Bon, je caricature, mais j'imagine que c'est pas de ça dont on parle.
Sur l'IA, tu disais, Marie, qu'il y a peu de publications, il y a quand même une. C'est pas une chercheuse, c'est quelqu'un de Microsoft Kate Crawford, c'est le contre-atlas de l'IA. Je ne sais pas si c'est très technocritique, je ne l'ai pas lu, pas encore.
Je l'ai lu, dans mes souvenirs, en tout cas, la partie qui traite de l'écologie est la partie introductive, où elle raconte en fait les mines, ce qui se passe dans les mines. Quand je dis que les impacts qui sont les impacts délétères qui sont les plus importants sont les impacts indirects, je ne veux pas dire qu'il faut négliger pour autant les impacts de premier ordre qui sont effectivement vraiment très très conséquents quoi. Et alors souvent on résume ça à l'évaluation des gaz à effet de serre, ce qui est assez problématique puisque ça invisibilise du coup tous les autres types de dégâts en fait sur les milieux que cause le numérique ou l'intelligence artificielle et notamment l'extraction minière où dans mes souvenirs tu avais invité Aurore Stéphan qui fait un travail vraiment très louable sur cette question et oui la question de l'extraction minière est vraiment très très importante. Mais effectivement, Kate Crawford, en tout cas, dans mes souvenirs, dans le contre-atlas de l'intelligence artificielle, n'évoque que la question minière ou, à minima, que la question des impacts de premier ordre à l'égard de l'intelligence artificielle.
Parce que là je vois, dans un bref résumé, là, elle parle quand même des rapports de force politique, etc. Enfin, de vraiment pas que les impacts de premier ordre, mais également les externalités. Au niveau de la société, mais bon, voilà, encore une fois, je ne l'ai pas lu, donc je me fie à toi.
Et une toute petite remarque, tu utilises bien les mots que tu veux, hein, mais c'est, je pense que le terme d'externalité, enfin moi en tout cas, je ne suis pas très à l'aise avec ce terme, puisqu'il sous-tend en fait que c'est externe et non pas intrinsèque, interne au dispositif qu'on est en train de considérer.
Eh ben, c'est pour ça que je vous ai invité, comme ça j'améliore mon vocabulaire et je me nourris de tous mes invités. Merci à vous.
Et je suis désolée, voilà, mais je voulais faire aussi une dernière remarque sur l'éco-conception. C'est que, en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu Enfin, effectivement, ça dépend du discours politique qui l'entoure, mais que, en fait, pour moi, j'ai l'impression que le problème est que ça met l'attention des personnes sur uniquement l'optimisation du produit qui est conçu et non pas sur la consommation. Et c'est vraiment en fait ce que sous-tend le terme de éco-optimisation, qui a été un peu une sorte de le terme qui a permis de conceptualiser l'importance du numérique, notamment dans la stratégie de Lisbonne. Et qui voilà en fait ce terme c'est un concept et ce concept il est politique en ce qui contient en fait une certaine conceptualisation qui du coup va mettre ce qui est important uniquement sur la conception et l'efficacité, l'optimisation de la conception et non pas en fait ce qui manque dans l'équation quand on regarde au total ce qui se passe, c'est-à-dire la consommation.
Ok, très bien. Bon, après, pour faire un retour d'expérience, moi, justement, j'introduis le sujet de la démarche d'éco-conception en réfutant tout de suite toute notion d'optimisation et d'efficacité. C'est pas du tout ça le sujet. Bah, je vous invite on a encore plein de sujets à aborder. Tu en as un peu parlé, Romain, du monde de l'enseignement supérieur. Justement, est-ce qu'on peut résumer, c'est difficile de résumer, mais justement, l'apport, dans tes propos, tu étais assez critique par rapport à ça. Résumer l'apport du monde académique au développement et au déploiement du numérique dans la société.
Moi, je suis dans un laboratoire d'informatique. Et précédemment, j'étais dans un laboratoire de traitement du signal. C'est très difficile pour les collègues enseignants, chercheurs, doctorantes qui sont enfermés dans leur ce que la psychologie sociale appelle l'escalade d'engagement, c'est-à-dire le fait de s'être engagé dans une voie. D'avoir développé une expertise hyper étriquée dans un domaine extrêmement précis et ultra numérisé, c'est très difficile psychologiquement de se dire que ce qu'on fait ne fonctionne pas et qu'il faut l'arrêter. Et le fait est que pour survivre dans ce monde-là, pour pouvoir faire une carrière, on a besoin de produire. Et donc on est aussi dans une logique très marchande, très mercantile de production matérielle, de production de marchandises qui sont nos articles et qui nous permettent d'avancer et de pouvoir avoir un poste. Et en fait, le système académique lui-même, donc là, le système de recherche, en tout cas, le fonctionnement du monde de la recherche est très incitatif à ne pas se poser de questions ou à régler sa dissonance par du bougisme, par des petits gestes. Et c'est ce que moi, j'observe de manière très pragmatique au quotidien. Moi qui ai fait une transition bien plus nette que mes collègues, j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à discuter avec eux et elles, étant donné que le discours est compliqué à recevoir, parce qu'il est incompatible avec le quotidien. Et pour ce qui s'agit du cadre académique, on est dans un système que moi j'appelle d'endoctrinement universitaire, où on a un ensemble de cours qu'on déverse de manière verticale à des étudiants et étudiantes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un pouvoir d'agir sur le contenu, sur la réponse aux vraies questions qui se posent. L'objectif, c'est aussi mercantile ici, c'est d'avoir une marchandise qu'on appelle diplôme, examen et diplôme. Et si on ne les obtient pas, on survit pas dans ce monde. Et à nouveau, l'université elle-même est subventionnée très très massivement par des capitaux industriels et par des appels à projets nationaux qui sont très orientés. Et donc qui valorisent énormément le déploiement numérique et le travail du numérique et sa glorification. Donc c'est très difficile de changer les choses, mais c'est ce que de fait moi j'essaye de faire. Mes interventions en tant que chercheur maintenant dans une acception de la recherche que j'appelle recherche-action, consiste justement à redonner du pouvoir d'agir, rééquiper mes étudiants et étudiantes d'une capacité de se poser des questions à l'intérieur des cours, de choisir comment on apprend, de répondre au vrai besoin qui est celui d'appréhender notre monde et d'avoir un pouvoir dessus, plutôt que recevoir de manière verticale un contenu qui a été déjà prédigéré et préprogrammé dans cette vision sociotechnique que Marie évoque par le système.
Du coup, j'anticipe sur une question que je voulais poser un peu plus tard, mais comme tu l'abordes, quelle place, et là je vous le pose à tous les deux, Marie et Romain, quelle place à la critique du numérique et des technologies au sens large est-ce que c'est facile de le faire depuis le monde académique? Est-ce que vous vous heurtez à une forme de techno-optimisme, à du techno-solutionnisme? Et moi, je vous trouve assez courageux, en fait, de le faire. Est-ce que vous avez des retours de bâton ou des remontrances de la part de l'institution?
Alors, moi, je peux répondre à deux façons. Déjà, c'est extrêmement enthousiasmant. C'est beaucoup plus facile qu'on le croit. Les étudiants et étudiantes, pour beaucoup, et d'année en année, ça explose en réalité, sont très inquiètes de fait, mais pour certains, déjà, très au courant. Et le fait de leur donner la parole, leur donner la possibilité d'interagir à l'intérieur du cours, de travailler ensemble, de découvrir par eux-mêmes et elles-mêmes, ça donne lieu à une forme d'accélération des prises de conscience. Ça, je l'observe au quotidien. Alors, mis à part en cours d'amphi où c'est très difficile de modifier la façon d'opérer en amphithéâtre de 150 élèves, lorsque on a des formats avec 30 élèves, c'est extrêmement facile en fait de changer la façon dont on enseigne et de redonner la main, ou en tout cas ne plus avoir cette vision verticale du sachant qui déverse sur les ignorants, la façon dont on enseigne, et auquel cas il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui peuvent émerger, et on peut se créer des contrats ensemble qui peuvent consister à dire d'ici la fin du cours, ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit embarqué dans ce bateau-là, on a envie que tout le monde soit clair sur notre capacité à avancer nos arguments, à les débattre, et ça peut avancer très très vite. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement agréable et facile, et d'une certaine manière, assez étonnamment, c'est revendiqué et demandé par l'institution, parce que les élèves commencent à se plaindre, commencent à lutter, et donc il faut des profs qui soient en mesure de d'apporter des réponses. Le problème, par contre, de fait, c'est que tant que l'institution est contente, ça veut dire, enfin c'est comme ça que je le traduis, ça veut dire que le contenu a été phagocyté par le système. Quand ça fonctionne et que tout le monde est content, ça veut dire d'une certaine manière que l'université peut continuer à tourner comme elle fonctionne aujourd'hui, et donc ça change pas grand-chose, sinon peut-être dans la tête des étudiants, ce qui est déjà une bonne chose. Par contre, là où ça devient intéressant de mon point de vue, je trouve, c'est que lorsqu'il y a des moments où par contre le système se rebiffe. Moi, j'ai déjà eu des censures, des menaces par l'université, parce que j'ai partagé typiquement le fait que les industries de microélectronique pour lesquelles on travaille dans les projets d'intelligence artificielle ici sur le site grenoblois, c'est des projets qui reçoivent des dizaines de millions d'euros de l'État. Ces projets, ils travaillent avec des entreprises qui vendent aujourd'hui des armes à la Russie, donc sous embargo, ou qui continuent à développer des outils qui sont pas tenables d'un point de vue environnemental. Et lorsqu'on commence à critiquer ça, lorsqu'on commence à toucher au portefeuille et on commence à réclamer un boycott ou un arrêt de ces programmes, là, ça peut s'envenimer. Et pour moi, ça a eu comme conséquence de me retrouver blacklisté de listes de diffusion et de recevoir des menaces de l'université. Mais j'étais protégé par ma hiérarchie directe, en l'occurrence. Parce que, de fait, on est dans ce nœud et le système n'est pas fait pour s'adapter à une demande de changement beaucoup plus radicale, mais nécessaire, que celle qu'elle souhaiterait voir passer, à savoir du greenwashing.
Marie, tu veux compléter ?
Me concernant, comme pour l'instant j'ai juste été en thèse, et que j'ai eu une certaine liberté pendant cette thèse qui m'a permis justement de changer l'orientation, le cap du sujet de thèse, du domaine dans lequel ça s'inscrivait, etc. Pour ma part, j'ai pas encore subi ce genre de choses. Je sais pas si ça arrivera. Et je pense que par contre, la question va se poser sur effectivement, est-ce que je vais trouver un poste ou pas par la suite. Mais pour l'instant, je pense que j'ai pas assez d'expérience pour répondre à ça.
Ok. Tu parlais tout à l'heure sur les effets de troisième ordre du numérique. Je reprends ton vocabulaire si tu me le permets. Donc, non seulement le numérique ne participe pas à la transition écologique, non seulement il ne peut réduire ses propres impacts, mais en plus, il peut être catalyseur d'une croissance économique au-delà des limites planétaires, comme tu disais, en fait, c'est les impacts vraiment écosystémiques, systémiques du numérique.
Eh ben, je suis pas sûre que je poserais le cadre de l'analyse de ce qui est problématique avec le numérique à travers son potentiel de croissance économique. Parce que pour moi, en fait, ce serait de nouveau réfléchir avec comme guide d'action la mesure du PIB. Et je pense que c'est précisément ça qu'il faut éviter, quoi. Mais par contre, effectivement, je pense que qu'une manière d'aborder la question du numérique, c'est effectivement sous le prisme de son rôle dans l'économie. Et là, oui, on peut observer que, pour reprendre les mots de Fabrice Flippot, le numérique, c'est le cœur mécanique de l'économie, de la société. C'est ce qui permet aussi c'est ce qui est vraiment au cœur du capitalisme de plateforme. Et effectivement, si on regarde un peu économiquement le rôle du numérique, oui, le dispositif numérique, il a permis l'expansion à l'échelle mondiale du transport de marchandises, du stockage et de la manutention, en facilitant en fait la gestion de l'information. L'efficacité dont on le targue en fait a permis entre autres l'expansion de l'échelle et de la cadence de production de nombreux secteurs économiques. Et c'est, je pense, à travers en fait en regardant l'optimisation des moyens logistiques, gestionnaires et organisationnels que permet le numérique, en fait, on voit que ça a permis en fait à une surcapacité en biens manufacturés sur les marchés mondiaux, et que en fait c'est justement ces particularités-là qui, je pense, sont intéressantes à analyser quand on se questionne sur les interactions entre le numérique et l'écologie. Et oui, effectivement, du coup, ça permet d'analyser que le dispositif numérique, il joue un rôle majeur, en fait, dans l'accélération de la production et de la consommation de biens et services, et du coup dans la diffusion de tendances et de modes de vie à des échelles très larges, qui sont, à mon sens, précisément en fait ce qu'il faut remettre en question.
Oui, Romain.
Oui, pour enchaîner là-dessus, moi la vision que, en général, j'ai du déploiement numérique et de ses conséquences sur les sociétales, c'est surtout du point de vue de verrou que ça induit. Bon, j'utilise souvent ce terme, mais à mesure de ce développement technologique, on inscrit la société dans un verrouillage qui consiste à être hyper dépendant de tout ce, et hyper dépendant à la fois d'un point de vue matériel, hein, on peut plus tirer de l'eau au robinet aujourd'hui s'il n'y a pas une infrastructure numérique qui le distribue, et donc dépendant aussi matériellement du fait des ressources que ça nécessite, du pétrole que ça utilise, dans un monde où on est censé ne plus en utiliser par ailleurs. Et puis un verrou psychologique, ontologique, qui a complètement changé notre rapport au monde. Et ça, dans d'énormes prismes, à commencer par le fait que on a l'impression aujourd'hui, avec cette énergie facile et ces outils facilitateurs de la vie, qu'on peut vivre tout seul, qu'un fonctionnement individualiste de l'existence est complètement cohérent avec le monde dans lequel on est, sauf que ça fonctionne pas comme ça, pendant 300 000 ans, on n'a pas fonctionné comme ça, et que le monde qui sera le monde de demain, qui sera nécessairement dénumérisé, hein, qu'on le veuille ou non, hein, d'un point de vue pénurie de ressources, de choc écologique, environnemental, le fait que l'usine de TSMC à Taïwan est sur une faille sismique qui fait que toute l'économie mondiale peut s'arrêter du jour au lendemain. En fait, d'une manière ou d'une autre, on doit adresser ce verrou, et c'est surtout ça, et verrou qui se renforme, hein, que se renforce et qui nous enferme à mesure qu'on continue ce développement et qu'on garde cette course en avant, cette fuite en avant qui est celle actuelle du développement toujours plus et encore du numérique. Donc c'est plutôt comme ça que moi je préfère voir la question pour pouvoir l'adresser. C'est ça le problème qu'on a. C'est ce verrou qu'on a créé, cette transformation de nos modes de vie, notre façon de voir le monde qu'on doit changer.
Sur les modes de vie justement, et tu en parlais, Marie, de Fabrice Flipeau, donc je l'avais reçu au micro de Techologie donc en 2021, justement dans un épisode 46, l'impératif de la sobriété numérique et l'enjeu des modes de vie. Je vous invite également à écouter l'épisode 56 avec Françoise Berthoud du CNRS, qui nous parlait également d'au-delà des impacts environnementaux directs du numérique. Je vous propose d'enchaîner. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement actuellement, un peu un sujet d'actualité sur l'effervescence actuelle, voire à venir, autour de l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle grand public. Marie.
Ouah, je sais pas trop si j'ai des choses intéressantes à dire là-dessus. Hein.
Déjà,
à part
toi,
des banalités.
déjà, toi, tu parles pas d'IA, non?
Oui, c'est vrai que je préfère le terme d'apprentissage machine ou d'apprentissage automatique, même si la notion d'automatique, pareil, me séduit pas non plus. Il y a des chercheurs qui parlent plutôt d'hétéromation. Pour inclure le fait que bien souvent, en fait, quand on se figure par exemple le travail qui est réalisé par, on va dire, voilà, ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle, on a à la fois souvent tendance à l'anthropomorphiser en disant elle va dire ça, elle va conseiller d'eux, etc. Et aussi, on va complètement oublier toute la chaîne de travail, quoi. Principalement aussi en fait le travail de ce qu'on appelle les travailleurs du clic qui sont payés des misères, qui sont souvent, mais pas tout le temps parce qu'il y en a aussi dans les pays du Nord, mais qui sont souvent des travailleurs du Sud global qui sont payés de misères et qui ont des fois des tâches qui sont assez traumatisantes à effectuer. Et donc voilà, pour un peu toutes ces raisons, parce que l'emploi de mots en fait c'est performatif, quoi. Du coup, je préfère autant que possible préférer le terme d'apprentissage machine plutôt que d'intelligence artificielle.
Oui, sur l'intelligence artificielle, moi aussi. Là, je parlais de transformation ontologique du fait du numérique. On est effectivement, c'est assez incroyable, je trouve, de remarquer que de nombreux collègues qui travaillent ici dans le labo ont fait ont œuvré au développement du fameux traitement naturel du langage qu'on retrouve aujourd'hui dans ChatGPT pendant des années et des années, sans se poser la question en anticipation de quelles seraient les conséquences de l'avènement d'un tel outil. Le fait est que ça a pris 2 semaines, une fois ou moins, après que ChatGPT est né, pour qu'on se rende compte que, oups, on a peut-être été un peu trop loin, ça peut être extrêmement dangereux cet outil, ça peut avoir des conséquences majeures sur notre façon d'appréhender le monde, sur nos cosmologies, et c'est très grave. Et je trouve ça assez incroyable qu'on soit aujourd'hui aussi noyé dans cette logique d'innovation, de production à tout va, pour un plaisir supposé ou une arrogance, je pense, face à notre capacité en tant qu'humain à transformer le monde et à le rendre plus beau, tout en le détruisant par ailleurs. Et l'intelligence artificielle est hyper paradigmatique de ça, en fait. C'est un énorme symptôme de notre regard très arrogant au monde, qu'on détruit par ailleurs à une vitesse incroyable. Je sais pas combien il nous reste d'années à vivre, mais visiblement, vu comment on est parti, c'est pas terrible. Et l'IA aujourd'hui, c'est un aveuglement total sur lequel on continue à investir. Donc, quand je disais tout à l'heure que je m'étais fait bannir des listes de mails, ça a été notamment une conséquence de cet avertissement cet appel que j'avais fait à nous poser la question, veut-on continuer l'IA? Ou du moins, on a un gros projet grenoblois qui a été alimenté de 30 millions d'euros par l'État, qui s'est terminé il y a quelques mois, et il y avait un appel à relancer pour 130 millions d'euros. Et donc, j'avais souhaité poser la question, faire en sorte que nos collègues, qu'entre collègues, on se pose la question, veut-on y aller? Veut-on multiplier par 4 la voilure de ce projet dont on voit toutes les conséquences nocives aujourd'hui? Veut-on vraiment faire ça? Et voilà, j'ai été banni. Et donc apparemment on va avoir le projet. Finalement, ce sera 90 millions d'euros qu'on va recevoir, donc x3.
C'est de l'argent magique.
On se pose pas la question. C'est de l'argent étatique, c'est de l'argent de l'État, enfin corporatiste en tout cas, qui vient de l'État, mais qui vient effectivement dans une logique très très naturelle de course à l'armement avec l'Asie, enfin avec la Chine, avec les États-Unis qui développent de l'intelligence artificielle à tout va. On le voit d'un point de vue militaire notamment, et ça c'est assez grave, où le fait d'avoir de l'intelligence artificielle qu'on peut monter à l'intérieur de drones qui vont automatiser leur recherche. Donc là on parle aujourd'hui d'essaims de milliers de drones qui peuvent arriver sur un champ de bataille et agir par eux-mêmes en fait. Et ça je pense que c'est possible, c'est totalement possible. Et sinon d'un point de vue beaucoup plus profond ontologiquement parlant, le fait qu'on ait des agents conversationnels tels que ChatGPT aujourd'hui qui font l'illusion d'une discussion humaine, amène à des dystopies dans lesquelles demain tout le monde parlera à son agent virtuel conversationnel, on isolera encore plus les humains, plus individualisés vu qu'on aura quelqu'un à qui parler. C'est pas absurde de l'imaginer, et c'est encore plus enfermant. Et ça isole encore plus la possibilité de faire groupe, de faire corps, de recréer des sociétés d'entraide, d'échange et de mouvements contestataires et révolutionnaires dont on a sérieusement besoin si c'est la seule option qui s'offre à nous aujourd'hui. Voilà, à nouveau face à toujours dans une compréhension de l'urgence est telle que on a besoin d'agir très très vite, mais tout le système nous enjoint à ne pas bouger et à changer et à garder un regard extrêmement dystopique sur la façon dont on vit, dont on est. À nouveau, on a 300 000 ans d'existence, on n'est pas fait pour vivre dans les conditions immatérielles dans lesquelles on est aujourd'hui.
Pas de pitié pour les croissants.
Dans ta publication, toi, tu parles de démantèlement du numérique. Tu vas cash. Pourquoi, selon toi, faut-il planifier donc une désescalade, une décroissance, voire un démantèlement, comme tu le souhaites? Est-ce qu'un numérique essentiel est-il envisageable à tes yeux, Romain?
Alors, la raison pour laquelle je parle de démantèlement, c'est à trois titres, en fait. Le premier, c'est pour provoquer. Le premier, c'est en fait, en réalité, pour créer une option qui n'existe pas. C'est ce que Ivan Illich appelle un tabou de deuxième ordre. Il y a les sujets tabous, ceux qu'on n'a pas le droit de dire, et il y a les tabous de deuxième ordre, c'est les impensés. C'est les choses que on n'imagine même pas. Et je pense que le fait de se débarrasser, enfin de vivre dans un monde dénumérisé aujourd'hui, c'est devenu un tabou de deuxième ordre. On a des smartphones depuis 10 ans. On peut pas concevoir vivre sans smartphone. C'est quand même assez incroyable. Et à nouveau, hein, c'est 10 ans sur 300 000 ans d'humanité. Et donc l'idée de mentionner le mot démantèlement du numérique, rien que l'existence même du mot-clé permet de créer une option et de se dire bah, pourquoi pas.
Ça me fait penser parce que dans le bouquin de Timothée Parik sur la décroissance, donc ralentir ou périr, pour lui, justement, comme il y a plusieurs courants, décroissance, post-croissance, croissance heureuse, etc., lui, en fait, il a choisi le mot décroissant, justement, comme il l'explique, un mot bombe. Un mot bon pour justement exploser et que ça fasse vraiment débat. Et finalement, il a eu le débat. Enfin, en tout cas, ça fait réagir. Qu'il y ait débat, je ne suis pas sûr, mais que ça fasse réagir, oui, dans le mauvais sens, du coup. Je te laisse continuer.
Oui, donc la deuxième raison de parler de démantèlement numérique, c'est parce que la notion même, elle a été formalisée, théorisée, notamment par le travail de Monin, Landivar et Bonnet dans leur livre Héritage et fermeture, dont le sous-titre est Pour une écologie du démantèlement. Donc en fait, c'est théorisé le mot-clé démantèlement. Ça ne veut pas juste dire casser tous les ordinateurs et arrêter de vivre avec. Hein. C'est beaucoup plus évolué, avancé que ça, cette acception de comment on renonce, on désinnove, on apprend à vivre sans et on désescalade. Voilà, c'est peut-être le mot-clé le plus adapté à rentrer dans une forme de désescalade numérique. Donc créer une option pour que ça soit ancré dans la tête des gens. Maintenant, c'est trop tard, c'est écrit dans votre esprit, donc vous devez considérer cette option là c'est théorisé, ça n'a rien de radical au sens péjoratif que prend le terme pour beaucoup de gens. Et puis parce que à nouveau il faut engager une réflexion sur la possibilité d'une vie future dans un monde dénumérisé, du fait, à nouveau, des verrous dans lesquels on s'est enfermé et qui ne peuvent pas durer parce qu'on va se retrouver dans des conditions de pénurie métallique, de ressources, d'énergie, qui feront que tôt ou tard, même si c'est dans 2 siècles, on vivra dans un monde dénumérisé. Et que par ailleurs, et c'est ça qui est plus grave malheureusement, parce qu'on a quand même suffisamment de pétrole et de métaux pour continuer à détruire la planète, on a de toute façon plus le droit de le faire. Et comme Marie le signalait, hein, les impacts de troisième ordre du numérique sont tels aujourd'hui, et l'escalade d'engagement du monde dans cette sphère numérique est telle que la situation ne fait que s'aggraver. Alors qu'on sait déjà que maintenir l'existant, c'est-à-dire maintenir une civilisation comme la nôtre aujourd'hui, ne nous permet pas du tout d'endiguer les dérèglements climatiques et de maintenir la soutenabilité de la vie sur Terre à court terme. Donc on doit désescalader, on est en train de partir dans le sens complètement opposé et toujours dans une loi de Moore d'accumulation. Je dis loi de Moore, hein, parce que c'est la loi du numérique, mais de fait, elle est en parallèle de la continuité de l'accélération sociétale. Donc, il faut de fait s'engager dans la loi opposée, décroissance exponentielle. Hein, c'est ce que le Shift Project rappelle. Hein, il faudrait décroître de 7% par an. Pour l'instant, on fait du plus, je sais plus combien. En tout cas, on n'est pas en décroissance du tout.
Maintenant qu'on a vu le pourquoi, comment décroître, comment désescalader, comment démanteler le numérique, ou comment désarmer, tu l'as cité tout à l'heure, Romain, désarmer le numérique, comme le disaient aussi les soulèvements de la Terre, hein, désarmer les infrastructures qui détruisent le vivant.
Eh ben, tout à l'heure, tu évoquais le terme de planification, ou enfin de désescalade, etc. Et effectivement, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, mais que qu'il faut être réaliste et voilà, faire le constat que c'est clairement pas du tout la direction que on est en train de prendre. Et du coup, ce qui peut me poser question par rapport au terme de planification, c'est le risque en fait d'être dans des postures uniquement de plaidoyer, c'est-à-dire d'attendre uniquement que les décideurs agissent en leur demandant, en faisant des manifestations ou enfin ce qui n'arrive même pas pour l'instant hein, vis-à-vis du numérique. Mais voilà, j'ai bien peur que si on se dit que la perspective politique c'est la planification d'une désescalade numérique, j'ai peur qu'on attende très longtemps. Mais en revanche, je pense que il faut penser en fait une sorte de complémentarité avec des formes de résistance aux dispositifs numériques. Et ben on évoquait les soulèvements et effectivement, je pense que la stratégie des soulèvements de la Terre, ça a été de dire que le problème de l'effondrement bioclimatique, du changement climatique, etc., c'est des problèmes qui sont trop gros et auxquels si on essaye de s'y confronter directement, on n'a pas de prise directe d'action. Et donc, eux, c'est pourquoi ils se sont concentrés sur la défense de l'eau et de la terre, et notamment des luttes locales pour avoir des prises directes. Et ben, à l'instar des soulèvements, je pense qu'il faudrait trouver des formes de prise directe d'action afin de pouvoir lutter, résister concrètement aux dispositifs numériques.
Et ben en fait, ça fait une parfaite transition avec ce que j'avais envie d'évoquer. Ben, je soutiens. C'est très difficile d'évoquer ces questions. À nouveau, on est dans on est plus que dans des tabous. Hein. En fait, on peut, selon la façon dont on évoque les choses, ça peut être considéré comme illégal ce qu'on peut raconter. Donc, c'est très des sujets très sensibles. Et on est dans un monde sensibilisé, sensibilisé au sens où on n'aime pas dépasser le cadre légal. Malheureusement, la hauteur des enjeux fait qu'aujourd'hui, on est obligé de se mouiller un peu plus. Moi aussi, comme Marie, je ne crois pas au citoyennisme. On n'est pas dans une démocratie, ça, il faut le rappeler. Hein, c'est ce que Barbara Stiegler s'évertue à raconter. On n'est pas du tout dans une démocratie en France. Et il y a une époque où l'arrivée de nouvelles technologies et de développements supposés de progrès, époque pas si lointaine que ça, hein, c'est ce que j'ai plus son prénom, Jarige ou
François Jarige.
François, oui. Ouais, c'est ça, oui. François Jarige, tous les historiens des techniques n'ont de cesse d'évoquer, hein, quand on revient notamment sur les mouvements ludistes de 1811, c'était des mouvements communautaires qui refusaient l'avènement des techniques, pas parce qu'ils étaient réactionnaires anti-progrès, mais parce qu'ils avaient bien réfléchi communautairement aux conséquences que ça allait avoir à court, moyen et long terme. Et ces luttes-là, elles étaient, de notre point de vue, de modernes, violentes, mais de fait, remis dans le contexte de l'époque, c'était d'une certaine manière monnaie courante, mais bon, avec des réactions du système assez violentes, vu que ça a été jusqu'à la punition par peine de mort du Brain Machine. Mais donc ce sur quoi je voulais revenir, par contre, c'est le fait que effectivement redonner du pouvoir d'agir, ce qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, hein, et à nouveau à cause de l'enfermement créé par le numérique, ça me paraît effectivement les seuls leviers viables qui existent. Et nous, à Grenoble, je peux donner cette expérience, elle est extrêmement intéressante parce qu'en plus, elle est totalement en contact avec le numérique. Il y a des mouvements d'opposition à l'agrandissement des sites du site de ST Microelectronics, là, qui va tripler sa production en local, ce qui va avoir pour conséquence de doubler ou tripler la consommation d'eau potable dans un contexte déjà de pénurie d'eau. Ça s'est passé exactement de la même manière à Taïwan. Tripler la production de ST Microelectronics, ça va renforcer le verrou économique dans lequel on s'installerait localement, avec des enjeux écologiques majeurs. Et ce qui est extrêmement intéressant dans la lutte, notamment du collectif qui s'appelle Stop Micro, c'est de s'apercevoir que les moyens effectifs citoyennistes d'opposition c'est-à-dire les moyens légaux, les moyens de contact direct entre le citoyen, les citoyennes et l'entreprise, en fait, ne fonctionnent pas. On y a des déminis de démocratie qui s'accumulent à mesure que cette lutte progresse. C'est extrêmement intéressant de s'en apercevoir. Ça permet d'accélérer la prise de conscience et de se rendre compte que les mesures à mettre en place sont beaucoup, ne peuvent pas être que citoyennistes. Et là, j'en reviens à toute l'étude de Eric McBay dans son livre Full Spectrum Resistance, qui, d'un point de vue historique, il faut toujours revenir à l'histoire. Aujourd'hui, à nouveau, on est dans une arrogance où on a l'impression qu'on va tout décider et redécouvrir. La réalité des choses, c'est que de tout temps, des luttes écologistes d'autonomisation ont eu lieu. Elles se sont toujours déroulées de la même façon. Il y a une grande naïveté au début où on croit en ces apports citoyennistes, qu'on peut changer le système de l'intérieur. Le fait est que ça ne marche essentiellement jamais et que les luttes se développent, évoluent sur un spectre très large. C'est ça que ça veut dire, full spectrum resistance. Ça veut dire qu'il faut faire de l'éco-conception, en effet, pour répondre à des enjeux, comme je le disais tout à l'heure, symptomatiques, tout à la fois qu'il faut mettre en place des luttes beaucoup plus engagées, avec un rayon spectral très large et qui doit être, de fait, à la hauteur de l'enjeu global qui est la survie de l'humanité, des êtres de cette planète, et pas juste la survie de mon smartphone, quoi.
J'ai quelques propositions légales pour saboter la machine. Saboter la machine légalement, ça peut être alors non seulement rendre moins efficients les systèmes, donc alors là, pas du tout appliquer l'éco-conception, mais au contraire, alourdir les systèmes, les rendre moins efficients. Alors je sais pas si c'est légal ça, mais bon, on peut être un très mauvais développeur. Ou en tout cas être très bon, avoir une bonne réflexion politique et mettre des boucles infinies, je sais pas, dans les systèmes, lever le pied dans son poste, surtout quand ça n'a pas de sens, voire même parce que ça peut faire très très mal à l'industrie qui est en forte tension, comme on dit, sur le marché de l'emploi et de la ressource humaine, c'est déserter son entreprise ou même le secteur du numérique. Alors on peut déserter son entreprise et donc démissionner, quitter, le rendre public et travailler pour d'autres secteurs sur les questions de transition écologique ou carrément de se reconvertir sur d'autres sujets ou de s'ouvrir les chakras. Moi-même, personnellement, je rêve d'avoir plusieurs activités, que ce soit dans le numérique ou dans d'autres choses, peut-être l'agroécologie.
Oui, de toute façon, il y a beaucoup de, malheureusement, comme je disais, qu'il faut une transition autologique. Il y a beaucoup de normes sociétales à remettre en cause, la valeur travail étant la première. C'est assez triste de voir que beaucoup de mouvements de contestation contre les lois travail, retraite, etc., demandent des meilleurs salaires et plus de travail. Alors qu'on devrait se reposer des questions beaucoup plus fondamentales que ça. Et j'allais dire que, pour revenir un petit peu sur le mouvement Stop Micro, ce qu'on remarque, ça a des conséquences, les actions des activistes qui sont menées. Et notamment, ça oblige les entreprises, lorsqu'on avertit le public du fonctionnement des entreprises, ce qu'elles produisent, pourquoi, et qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont véhiculés, ou des non-dits, du moins, et qu'on commence à toucher, comme tu l'évoquais, les sphères d'enseignement et de recherche, surtout d'enseignement, ça crée des trous dans le recrutement. Et donc, les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent faire alors? C'est venir plus souvent dans les écoles. Et qu'est-ce qu'elles vont dire dans les écoles? Elles vont mentir. Elles vont être obligées de sortir des arguments complètement intenables du type « l'eau qui est utilisée par ST est remise à la nature ». Bon, malheureusement, elle est remise complètement polluée, dégradée, inutilisable par l'homme ou l'écosystème. Mais de fait, le système sous pression doit par conséquence de mentir, de se révéler, de s'ouvrir avec pour conséquences possibles d'avoir effectivement une crise d'approvisionnement en termes de ressources humaines. Alors ça, on peut imaginer que ça va pas se passer tout seul, hein. Il va y avoir des mesures de répression encore plus fortes de l'État. Là, on le voit avec la loi RSA, hein, qui va vider les mouvements de contestation, qui va vider la possibilité des gens qui voulaient sortir de la logique du travail de s'y maintenir.
Juste pour rappeler peut-être une info, si vous l'avez pas, donc si vous êtes au RSA maintenant, vous êtes enregistré directement, non plus à Pôle emploi, mais à France Travail. Aujourd'hui, on ne peut plus profiter, ouais, entre guillemets, hein, de revenus minimum qui était le RSA. Mmh. C'est obligatoirement lié à cette valeur travail, en fait.
Non, mais c'est pas étonnant du tout. Il y a pas.
On est dans une logique. On est toujours dans une logique productiviste et au service du système capitaliste.
Alors productiviste et anti-contestataire.
Marie, tu voulais réagir sur la précédente question.
Non, je voulais juste rapidement citer un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle Tout plaqué, et dont le sous-titre est La désertion ne fait pas partie de la solution, mais du problème, de Anne Imbert, avec un titre un petit peu provocateur, et qui soulève, je pense, des points assez intéressants, notamment peut-être une certaine dérive qui peut y avoir dans la notion de désertion lorsque ça se résume à un acte individuel réalisé pour plus par des questions de sens individuel plus que de démarche politique, et qui en fait bien souvent les personnes qui peuvent déserter sont des personnes qui ont suffisamment de sécurité matérielle pour le faire. Et il me semble qu'elle pose la question qu'est-ce qui est le mieux entre une personne qui va déserter pour voilà son propre bien-être et qui va pas aller dans une démarche politique et collective, ou une personne qui va rester mais qui va s'engager par exemple dans un syndicat et qui va avoir une démarche plus politique. Et voilà, c'était juste pour évoquer une toute petite critique que je trouve assez pertinente sur la désertion.
Après, de ce qu'on voit quand même, en tout cas dans les désertions qui sont avec une communication, avec une rendue assez publique, avec des vidéos, etc. en ligne, c'est quand même des désertions assez politiques, hein. Bon, j'ai pas encore lu, effectivement, je l'ai vu passer le contre-feu d'Anne Imbert. J'appelle ça un contre-feu, mais faudra aller voir un petit peu. Mais donc Anne Imbert, elle est ingénieure, hein, donc faut aussi voir un peu est-ce que c'est pas le système qui essaie de se défendre. Mais j'essaierai de le lire et peut-être l'inviter, comme ça on pourra avoir les différents avis.
Oui, nous on l'a invité dans le cadre d'une... Ah oui, je peux l'évoquer, ça d'ailleurs, ça fait partie des réponses de mon point de vue. On a créé, c'est la même chose à Paris-Saclay, donc nous on est à Grenoble, une autre rentrée, donc rentrée alternative à la rentrée universitaire, dans laquelle on a proposé aux étudiants et étudiantes de venir créer ou co-organiser avec nous les cours qu'ils aimeraient recevoir dans une structure universitaire qui n'est pas faite pour justement s'émanciper. Et donc, on a notamment fait une soirée sur la désertion où on avait invité Anne Imbert et Olivier Lefebvre, qui lui avait écrit le livre « Lettres aux ingénieurs qui doutent ». Donc, c'était extrêmement intéressant. Il y a eu 80 personnes qui sont venues. Et donc, effectivement, ce qu'elle raconte, c'est effectivement ça, c'est qu'en étant ingénieur, on a créé un cadre de vie. Si on a des enfants, ils ont des dépendances à des loisirs, à une sphère amicale, etc., qui fait que lorsque on s'est enfermé dans ces dépendances, c'est extrêmement difficile de quitter. Et il y a effectivement cette histoire de valeur. Alors ça, je suis pas forcément super d'accord, mais le fait que la valeur ingénieur déserteur est aujourd'hui encore supérieure à la valeur ingénieur, et donc de fait, on pourrait mythifier ce cadre de la désertion. Mais j'aime pas trop cette analyse. Par contre, effectivement, il y avait des membres des déserteuses qui étaient là. Et qui nous expliquait que être à l'intérieur du système et faire soit du quiet quitting ou du report d'information de l'intérieur vers l'extérieur, ça peut être des actions d'engagement qui peuvent être plus puissantes effectivement que celles d'une désertion totale. À titre personnel, hein, il y a un an, ou je sais plus quand, je m'étais dit je fais tout et n'importe quoi dans l'université et quitte à me faire virer. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit quand même, quand justement j'ai eu des menaces, je me suis dit, oups, En fait, c'est quand même un peu bête parce que j'ai des sphères d'influence monumentales qui sont tous les étudiants et étudiantes que j'ai face à moi toutes les deux heures dans des amphithéâtres de 150. C'est peut-être un peu dommage d'aller au sacrifice ce que le système serait finalement content que je fasse peut-être. voilà, donc c'est des questions qui demandent beaucoup de il y a beaucoup de fils à tisser et les réponses sont pas binaires quoi.
Comment positionner la technocritique face à la technophilie ou face au techno-optimisme ou autre technosolutionnisme ambiant?
Moi, ma réponse, elle est simple. On le fait pas. On laisse les gens le faire. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai un peu appris dans mes interventions à l'université. Ma première réaction, hein, c'est souvent ce qui se passe quand on prend conscience que depuis 20 ans, on fait n'importe quoi et qu'il faudrait faire l'opposé. La première réaction un peu viscérale, c'est d'aller communiquer de partout, toujours de manière verticale, en disant aux étudiants, étudiantes en l'occurrence, stop, arrêtez, quoi, regardez ce qui se passe. Mais en fait, ça met pas du tout en action. Ça permet pas de mobiliser, de se sentir acteur, actrice du système, d'autant plus qu'on est enfermé dedans. Alors que finalement, lorsqu'on se met dans une posture où on laisse les gens autour de documents, hein, enfin, je veux dire, c'est pas une confrontation d'idéologie, mais on crée les conditions, quand on devient finalement facilitateur de conditions de discussion entre des personnes concernées par le sujet, donc là, en l'occurrence, c'est des étudiants ingénieurs, au final, émerge énormément de choses beaucoup plus pertinentes que si c'était moi, en tant que sachant, qui, de manière verticale, avait déversé tout un savoir nouveau en contradiction totale avec ce que les étudiants et étudiantes apprennent tout le reste de la semaine. Ça fonctionne extrêmement bien, en fait. Alors, il y en a hein, qui croient qu'il va falloir continuer à développer la technologie, mais c'est pas grave. Chacun est dans son positionnement, chacun est à l'intérieur de son propre système de croyances et d'injonctions sociales, mais ça évolue vite, et le fait de pouvoir permettre la discussion, de pouvoir permettre surtout, je crois, d'utiliser les sphères d'influence de tout le monde et de se trouver des endroits, des zones où la discussion est possible, saine. En écoute et en non-jugement, ça permet de mettre en mouvement. En tout cas, dans mon cadre, c'est ce que je trouve être le plus efficace de mes actions.
Par ailleurs, et de l'autre côté de l'échiquier, comment positionner la technocritique face à une technophobie réactionnaire, parfois d'extrême droite, parfois essentialiste ou transphobe?
J'ai envie de dire de la même manière. Moi, je suis pas transphobe, mais j'essaye toujours de me mettre dans une position où on essaye de comprendre ce qui amène chacun, chacune à se trouver dans une position extrême. En psychologie, on dirait que chaque plainte est légitime et chaque émotion qui émerge de nous est légitime. Faut essayer de le comprendre, de les comprendre. Et si c'est des réactions extrémistes et violentes, eh ben elles sont dues à un contexte qu'il faut essayer d'écouter. Et je pense que si on combat les considérations réactionnaires par les armes, ben on fait leur jeu. On se préparera pas à construire une société beaucoup plus saine. Alors de fait, ça peut donner l'impression d'être un peu bisounours ce que je raconte. Toujours pareil, hein, de manière symptomatique, il faut lutter. Hein, on est dans un contexte aujourd'hui où l'anéantissement biologique global est tel qu'il faut lutter et s'opposer. Et s'il faut passer par la violence, on passera par la violence. Mais ce que je veux dire en ça, c'est que c'est difficile de se mettre par défaut dans un contexte d'opposition. Par défaut, je préférerais, comme Spinoza l'évoquait, être dans un contexte d'écoute et de compréhension, utiliser la raison, et à défaut, par défaut, et lorsqu'il faut réagir de manière plus véhémente et collective, et ben on utilise ces outils-là. À nouveau, full spectrum, ça me paraît être la bonne réponse.
Pour conclure, quelles sont vos propositions pour sortir du tout numérique, pour sortir par le haut? Est-ce qu'on a déjà tout abordé? Marie, tu veux commencer?
Pour ma part, vraiment, je vais simplement répéter ce que je disais auparavant, c'est-à-dire résister au dispositif numérique.
C'est simple, c'est résumé. À toi, Romain.
Moi, j'allais dire que pendant un moment, beaucoup hein, d'entre nous considèrent que toutes les actions dites de bougisme, de petits gestes, servent à rien. Mine de rien, ça reste quand même des voies d'exploration on dirait praxéologique en fait. C'est-à-dire, c'est très bien de s'opposer dans la tête. À un système qui fait que aujourd'hui, là, en ce moment, on est en train d'utiliser un ordinateur, donc mine de rien, on en est dépendant. Donc c'est bien de l'idéaliser, c'est bien de créer des récits, mais lorsque c'est pas inséré dans nos corps, dans nos mouvements, dans notre praxie, en fait, ça permet pas de mettre en mouvement. Et donc j'allais dire que le premier geste à effectuer, c'est déjà de comprendre nos propres dépendances à titre individuel, là, hein, et même collectif, lorsqu'on se rassemble, reconnaître nos propres dépendances et essayer de jouer au jeu de la subversion qui consiste à ne pas utiliser un agenda électronique, mais de faire son petit agenda papier, ne pas utiliser de manière minimale son téléphone portable ou d'avoir une version low-end et pas un ordinateur dans la poche, jouer un certain nombre de ces jeux-là, histoire de se reconnecter, retrouver d'autres façons de faire du lien, de recréer la dépendance qu'on a aux autres, de la redécouvrir, de prendre plaisir à demander son chemin plutôt qu'à utiliser Google Maps. Et ça, c'est du bougisme, de fait, par définition, mais c'est des formes de bougisme que je trouve être engageants et qui permettent de recréer des mondes. Et ces mondes-là, en les explorant, dans le mouvement, dans la praxis, dans le papier et le crayon, réécrire des lettres, c'est super stupide, mais réécrire des lettres, c'est tellement beau, en fait, c'est tellement fort comme acte, que ça change, je trouve, la façon de se relier aux autres, et ça relie de fait. Ça donne envie de passer du temps pas devant son ordinateur mais dehors, et en fait ça a aussi un effet accélérateur, je trouve, qui engage, qui permet de trouver des cercles de personnes qui pensent de la même façon et qui ont envie de se mettre en mouvement, que ce soit pour lutter ou que ce soit pour créer. Et je crois que tout le monde a des sphères d'influence, tout le monde a des voisins, voisines dont on n'imagine même pas qu'ils pensent de la même façon, et que c'est en subvertissant l'outil numérique qui nous maintient à l'intérieur de la maison devant un écran qu'on peut créer le premier pas d'engagement. Donc même si beaucoup considèrent que ça c'est des petits gestes, c'est des petits gestes qui peuvent très vite permettre de mettre le doigt dans un engrenage où tout le bras va passer, très vite. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi et pour beaucoup de gens que je connais.
Ou une toute petite remarque là-dessus. Je pense que, pour ma part, il y a pas si longtemps, effectivement, je pouvais considérer que les petits gestes, en ayant une approche peut-être un peu conséquentialiste, utilitariste, où calcule un petit peu à quoi ça va participer de faire ça. Je pense que auparavant je comprenais pas trop en fait les personnes qui faisaient tous ces petits gestes. Et récemment, il y a une notion qui m'a permis de comprendre en fait réellement l'intérêt de tout ça. C'est la notion de forme de vie qu'utilise notamment Langdon Wiener dans Le Réacteur et la Baleine. Ou la baleine et le réacteur, je crois que c'est la baleine et le réacteur, qui reprend à Wittgenstein. Et en fait, cette notion-là de forme de vie, ce qu'elle veut dire, c'est que, en fait, elle permet de conceptualiser le fait que les technologies, en fait, elles se mêlent dans le tissu de notre quotidien et elles le redéfinissent. Ça veut dire qu'en fait, elles vont médiatiser la manière dont on habite le monde, la manière dont on se soigne, dont on crée, dont on communique, dont on se déplace, se nourrit, dont on s'organise collectivement, produit, dont on consomme, etc. Et également, mais c'est ce que tu disais, hein, Romain, qu'elle médiatise aussi notre rapport au vivant, au milieu de vie, à l'eau, à la terre, etc. Et du coup, en repensant la chose de cette manière-là, c'est-à-dire avec cette approche de forme de vie et du coup quelle est la place des technologies dans notre forme de vie, et du coup en adoptant plus une approche utilitariste, conséquentialiste de « ah, mais du coup, si on calcule les gaz à effet de serre, de pas utiliser Google Maps, etc. », et ben ça m'a vraiment permis de comprendre en fait le pourquoi du comment de est-ce qu'en fait ces petits gestes oui en fait ils font sens de cette manière-là et de à mon tour les adopter.
Oui, je voulais juste dire que ça permet d'engager vraiment dans le mouvement la différence entre ce qu'on appellerait écologie punitive qui consisterait à dire il faut se débarrasser des choses, tant pis, on va vivre sans. Et une forme d'écologie qui est, bah, au sens premier du terme, la redéfinition de la maison dans laquelle on vit tous et toutes, et de redécouvrir cette maison, tout simplement. Faire de l'écologie au sens tout premier du terme et pas juste être dans une logique de voilà dans quel monde je vis et avec tous ces bienfaits et de quoi je vais pouvoir me couper tout en survivant.
De l'écologie joyeuse.
Je crois qu'on a vraiment perdu de l'écologie écologique. <ouais. rire>
Eh bien, Marie Garin et Romain Couillet, merci beaucoup. C'était super chouette. Je rappelle, vous avez publié, je ne sais pas comment on appelle ça, des papiers de recherche, des papiers des publications.
Des articles de conférence, oui.
Donc, vous avez publié des articles de conférence que vous retrouvez en lien dans la description du podcast. Donc, pour toi, Marie, donc, que la transition écologique soit et la transition numérique fut. Pour toi, Romain, donc, tu as publié pourquoi et comment démanteler le numérique. Merci beaucoup. Et je voudrais juste finir également pour vous conseiller d'autres podcasts qui m'ont beaucoup plu ces derniers temps. Donc, il y a le podcast numérique essentiel du collectif Frugarilla avec notamment les intervenantes suivantes, Bella Lotto, Marie-Cécile Godwin, ou bien Agnès Crépé, toutes les toits qu'on a reçues également sur Techologie, mais aussi les grands entretiens de reporters, avec notamment le dernier avec Corinne Morel-Darleux, qui est vraiment très très chouette, et où elle parle des technologies et sa relation avec le smartphone, c'est super intéressant. Sur un tout autre sujet, un podcast qui m'a beaucoup beaucoup plu, c'est Les Couilles sur la table, que vous connaissez peut-être sans doute, de Victoire Thuaillon. Et le podcast qui m'a plu, donc c'est le tout dernier là, c'est Les Séducteurs Professionnels au Pérou. C'est vraiment hyper intéressant. On parle des relations aussi néocoloniales. Et pour rire d'écologie et avec beaucoup beaucoup d'humour, moi ça me plaît beaucoup. C'est Swann Périssé avec le podcast Il y a plus de 16 ans, qui est disponible aussi en format vidéo sur YouTube. Et notamment, je vous invite vraiment à regarder les épisodes avec Fatima Wasak, donc l'auteur de L'écologie pirate, ou bien l'activiste militante Camille Etienne. Vraiment très très chouette épisode. Merci beaucoup. Merci Marie, merci Romain. Très belle journée, très bonne journée à vous, auditeurs et auditrices. Et à bientôt sur Techologie.
Si tu aimes Techologie, pense-en autour de toi, mets des étoiles et un petit commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Merci.